Aristote, Métaphysique, livre 14, chapitre 1 à 3. Chapitre 1. Pour ce qui regarde cette substance, tenons-nous à ce qui précède. Les philosophes en question font dériver des contraires tout aussi bien les substances immobiles que les êtres physiques. Mais s'il n'est pas possible qu'il y ait rien d'antérieur au principe de toute chose, le principe dont autre chose constitue l'existence ne saurait être un véritable principe. Ce serait dire que le blanc est un principe, non pas en tant qu'autre, mais en tant que blanc, tout en reconnaissant que le blanc est toujours inhérent à un sujet et qu'il est constitué par autre chose que lui-même. Cette autre chose aurait certainement l'antériorité. Tout provient des contraires, j'y consens, mais des contraires inhérents à un sujet. Donc, nécessairement, les contraires sont avant tout des attributs. Donc, toujours, les contraires sont inhérents à un sujet et aucun d'eux n'a une existence indépendante. N'y ayant rien qui soit le contraire de la substance, comme cela est évident, et comme l'atteste la notion même de la substance. Nul d'entre les contraires n'est donc le principe premier de toute chose. Donc, il faut un autre principe. Quelques philosophes font de l'un des deux contraires la matière des êtres. Les uns, à l'unité, à l'égalité, opposent l'inégalité. 1, 2, 3. Les uns, à l'unité, à l'égalité, opposent l'inégalité, qui constitue selon eux la nature de la multitude. Les autres opposent la multitude elle-même à l'unité. Les nombres dérivent de la dyade, de l'inégal, c'est-à-dire du grand et du petit, dans la doctrine des premiers et dans celle des autres, de la multitude. Mais dans les deux cas, c'est sous la loi de l'unité comme essence. Et en effet, ceux qui admettent comme élément l'un est l'inégal, et l'inégal comme dyade, du grand et du petit. Ceux-là admettent l'identité de l'inégal avec le grand et le petit, sans établir dans la définition que c'est une identité logique et non une identité numérique. Aussi, ne sent-on 1, 2, 3. Aussi, ne s'entend-on pas bien sur les principes auxquels on donne le nom d'éléments. Les uns admettent le grand et le petit avec l'unité. Ils ont trois éléments des nombres. Les deux premiers constituent la matière, la forme c'est l'unité. D'autres admettent le peu et le beaucoup, éléments qui se rapprochent davantage de la nature de la grandeur, car ils ne sont que le grand et le petit. D'autres, enfin, admettent des éléments plus généraux encore, l'excès et le défaut. Les opinions dont il s'agit conduisent toutes, pour ainsi dire, aux mêmes conséquences. Elles ne diffèrent sous ce rapport qu'en un point. Quelques-uns évitent les difficultés logiques parce qu'ils donnent des démonstrations logiques. Remarquons toutefois que la doctrine qui pose comme principe l'excès et le défaut, et non pas le grand et le petit, est au fond la même que celle qui accorderait au nombre composé d'éléments l'antériorité sur la dyade. En effet, ce sont là les deux opinions les plus générales. Mais ceux dont nous nous occupons adoptent celle-là et repoussent celle-ci. Il en est qui opposent à l'unité le différent et l'autre. Quelques-uns opposent la multitude à l'unité. Si les êtres sont, comme ils le prétendent, composés de contraires, ou bien l'unité n'a pas de contraire, ou bien, si elle en a un, Ce contraire, c'est la multitude. Quant à l'inégal, il est contraire à l'égal. Le différent l'est à l'identique, l'autre l'est au même. Toutefois, bien que ceux qui opposent l'unité à la multitude aient raison jusqu'à un certain point, ils ne sont pas suffisamment dans le vrai. Dans leur hypothèse, l'unité serait le peu, car l'opposé du petit nombre, c'est la multitude. Celui du peu, c'est le beaucoup. Mais le caractère de l'unité, c'est qu'elle est la mesure des choses, et la mesure, dans tous les cas, est un objet déterminé qu'on applique à un autre objet. Pour la musique, par exemple, c'est un demi-ton. Pour la grandeur, le doigt, le pied ou quelque autre unité analogue. Pour le rythme, la base ou la syllabe. De même encore pour la pesanteur où c'est un poids déterminé. De même enfin pour tous les autres objets. C'est une qualité particulière qui est la mesure des qualités. Celle des quantités est une quantité déterminée. La mesure est indivisible, indivisible dans certains cas sous le rapport de la forme, dans d'autres cas, indivisible pour le sens. Ce qui prouve que l'unité n'est nullement par elle-même une essence. On peut s'en convaincre à l'examen. En effet, le caractère de l'unité, c'est qu'elle est la mesure d'une multitude. Celui du nombre, c'est qu'il est une multitude mesurée et une multitude de mesures. Aussi, n'est-ce pas sans raison que l'unité n'est point considérée comme un nombre, car la mesure ne se compose pas de mesures, elle est le principe, la mesure, l'unité. La mesure doit toujours être une même chose commune à tous les êtres mesurés. Si la mesure, par exemple, est le cheval, les êtres mesurés sont des chevaux. Ils sont des hommes si la mesure est un homme. Si l'on a un homme, un cheval, un dieu, l'animal sera probablement la mesure, et le nombre formé par ces êtres sera un nombre d'animaux. A-t-on, au contraire, homme, blanc, qui marche, alors il ne peut y avoir de nombre, parce que tout ici réside dans le même être, dans un être numériquement il peut y avoir cependant le nombre des gens ou des autres classes d'êtres auxquelles appartiennent ces objets. L'opinion de ceux qui reconnaissent l'inégale communauté et qui admettent la dyade indéfinie du grand et du petit, cette opinion s'écarte bien loin des idées reçues et même du possible. Ce sont là en effet des modifications, des accidents, plutôt que les sujets des nombres et des grandeurs. Au nombre appartient le beaucoup et le peu, à la grandeur, le grand et le petit, de même que le pair et l'impair, l'uni et le raboteux, le droit et le courbe. Ajoutez à cette erreur que le grand et le petit sont nécessairement une relation, ainsi que toutes les choses de ce genre. Or, la relation est de toutes les catégories celle qui est le moins une nature déterminée, une substance. Elle est même postérieure à la qualité et à la quantité. La relation est, comme nous l'avons dit précédemment, un mode de la quantité et non pas une matière ou quelque autre chose. C'est dans le genre et dans ses parties, dans les espèces, que réside la relation. Il n'y a pas en effet de grand et de petit, de beaucoup et de peu, en un mot, pas de relation, qui soit essentiellement beaucoup et peu, grand et petit, relation enfin. Une preuve suffit pour montrer que la relation n'est nullement une substance et un être déterminé. C'est qu'elle n'est sujette ni au devenir, ni à la destruction, ni au mouvement. Dans la quantité, il y a l'augmentation et la diminution. Dans la qualité, l'altération, le mouvement dans le lieu. Dans la substance, le devenir et la destruction proprement dit. Rien de pareil dans la relation. Sans qu'elle se meuve elle-même, elle peut être un rapport, tantôt plus grand, tantôt plus petit. Elle peut être un rapport d'égalité. Il ne faut que le mouvement de l'un des deux termes dans le sens de la quantité. Et puis, la matière de chaque être est nécessairement cet être en puissance, et par conséquent, une substance en puissance. Or, la relation n'est une substance, ni en puissance, ni en acte. Il est donc absurde, impossible pour mieux dire, d'admettre comme élément de la substance et comme antérieur à la substance ce qui n'est pas une substance. Toutes les catégories sont postérieures. Et d'ailleurs, les éléments ne sont pas les attributs des êtres dont ils sont les éléments. Or, le beaucoup et le peu, soit séparés l'un de l'autre, soit réunis, sont des attributs du nombre. Le long et le court sont ceux de la ligne, et le plan a pour attribut le large et l'étroit. Et s'il y a une multitude dont le caractère soit toujours le peu, ainsi la dyade, car si la dyade était le beaucoup, l'unité serait le peu, ou bien s'il y a un beaucoup absolu, si la décade, par exemple, est le beaucoup, ou si l'on ne veut point de la décade pour le beaucoup, un nombre plus grand que le plus grand nombre, comment, de pareils nombres, peuvent-ils dériver du peu et du beaucoup? Ils devraient être marqués de ces deux caractères, ou ne porter ni l'un ni l'autre. Or, dans le cas dont il s'agit, le nombre n'est marqué que de l'un de ces deux caractères. Chapitre 2. Il nous faut examiner en passant cette question. Est-il possible que les êtres éternels soient formés d'éléments? Dans ce cas, ils auraient une matière, car tout ce qui provient d'éléments est composé. Or, un être, qu'il soit de tout temps ou qu'il ait été produit, provient de ce qui le constitue. D'ailleurs, tout ce qui devient sort de ce qui est en puissance, l'être qui devient, car il ne sortirait pas de ce qui n'aurait pas la puissance de le produire, et son existence, dans cette hypothèse, serait impossible. Enfin, le possible est susceptible également de passer à l'acte et de n'y point passer. Donc le nombre, ou tout autre objet ayant une matière, fut-il essentiellement de tout temps, serait susceptible de n'être pas comme l'être qui n'a qu'un jour. 1, 2, 3. Serait susceptible de n'être pas comme l'être qui n'a qu'un jour. L'être qui a un nombre quelconque d'années est dans le même cas que celui qui n'a qu'un jour, et par conséquent, celui-là même dont le temps n'a pas de limite. Ces êtres ne seraient donc pas éternels, puisque ce qui est susceptible de n'être pas n'est pas éternel. Nous avons eu l'occasion de l'établir dans un autre traité. Et, si ce que nous allons dire est une vérité universelle, à savoir qu'aucune substance n'est éternelle, ni qu'elle n'est pas en acte... 1, 2, 3. À savoir qu'aucune substance n'est éternelle si elle n'est pas en acte, et si d'un autre côté les éléments sont la matière de la substance, aucune substance éternelle ne saurait avoir des éléments constitutifs. Il en est qui admettent pour élément, outre l'unité, une dyade indéfinie, et qui repoussent l'inégalité, et non sans raison, à cause des impossibilités qui sont la conséquence de ce principe. Mais ces philosophes ne font disparaître par là que les difficultés qu'entraîne nécessairement la doctrine de ceux qui font un élément de l'inégalité et de la relation. Quant aux embarras qui sont indépendants de cette opinion particulière, ils les subissent eux-mêmes de toute nécessité s'ils composent d'éléments, soit le nombre idéal, soit le nombre mathématique. Ces opinions erronées ont une foule de causes. La principale, c'est qu'on pose la question à la manière des anciens. C'est qu'on posa la question à la manière des anciens. On crut que tous les êtres se réduiraient à un seul être, à l'être en soi, si l'on ne levait pas une difficulté, si l'on n'allait point au-devant de l'argumentation de Parménide. Il est impossible, disait Parménide, qu'il n'y ait nulle part des non-êtres. Il fallait donc, pensait-on, prouver l'existence du non-être. Alors, les êtres proviendraient de l'être et de quelque autre chose, et la pluralité serait expliquée. Mais, remarquons d'abord que l'être... 1, 2, 3... Mais remarquons d'abord que l'être se prend sous plusieurs acceptions. Il y a l'être qui signifie substance, puis l'être selon la qualité, selon la quantité, enfin, selon chacune des autres catégories. Quelle sorte d'unité seront donc tous les êtres si le non-être n'existe pas? Seront-ils les substances ou les modifications, et ainsi du reste? Ou seront-ils à la fois toutes ces choses, et y aura-t-il identité entre l'être déterminé, la qualité, la quantité, en un mot, entre tout ce qui est un. Mais il est absurde, je dis plus. Il est impossible qu'une nature unique ait été la cause de tous les êtres et que cet être, que le même être à la fois, constitue d'un côté l'essence, de l'autre la qualité, d'un autre la quantité, d'un autre enfin le lieu. Et puis, de quel non-être avec l'être les êtres proviendraient-ils? Car, puisque l'être se prend dans plusieurs sens, le non-être a lui aussi plusieurs acceptions. Non-homme signifie la non-existence d'un être déterminé. N'être pas droit, la non-existence d'une qualité. N'être pas long de trois coudées, la non-existence d'une quantité. De quel être et de quel non-être provient donc la multiplication des 1, 2, 3, la multiplicité des êtres. On va même jusqu'à prétendre que le faux est cette nature, ce non-être, qui, avec l'être, produit la multiplicité des êtres. C'est cette opinion qui a fait dire qu'il faut admettre tout d'abord une fausse hypothèse, comme les géomètres, lesquels suppose que ce qui n'est pas un pied est un pied. Mais il est impossible d'accepter un tel principe. Et d'abord, les géomètres n'admettent pas d'hypothèse fausse, car ce n'est pas de la ligne réalisée qu'il s'agit dans le raisonnement. Ensuite, ce n'est pas de cette espèce de non-être que proviennent les êtres, ce n'est pas en lui qu'ils se résolvent. Mais le non-être, au point de vue de la perte de l'existence, se prend sous autant d'acceptions qu'il y a de catégories. Il y a ensuite le non-être qui signifie le faux, puis le non-être qui est l'être en puissance. C'est de ce dernier que proviennent les êtres. C'est de ce qui n'est pas homme, mais qui est un homme en puissance, que provient l'homme. Le blanc provient de ce qui n'est pas blanc, mais qui est blanc en puissance. Et il en est ainsi, soit qu'il n'y ait qu'un seul être qui devienne, soit qu'il y en ait plusieurs. Bon, je crois qu'il va falloir que je m'arrête. J'en suis au début du paragraphe, dans l'examen de cette question, un petit peu avant la ligne 300 en bleu. Dans l'examen de cette question, comment l'être est-il plusieurs ? On ne s'est occupé, ce semble, que de l'être entendu comme essence. Ce qu'on fait devenir, ce sont des nombres, des longueurs et des corps. Il est donc absurde, en traitant cette question, comment l'être est-il plusieurs êtres, de traiter uniquement de l'être déterminé et de ne pas chercher les principes de la qualité et de la quantité des êtres. Ce n'est en effet ni la dyade indéfinie, ni le grand et le petit. Bon, là j'arrête à ce paragraphe. Autour de la ligne 300, il faudra que je recommence ça dans l'examen de cette question.